Et après un moment d'humour, c'est maintenant le temps de se pencher vers notre prochaine thématique. Et comme chaque mardi, on va poser notre regard sur le monde du vélo avec la directrice des programmes chez Vélo Québec, Magali Bebron. Bonjour Magali.
Bonjour.
Bien, tu viens nous parler aujourd'hui d'un enjeu qui concerne pas juste les cyclistes, par exemple, mais oui. aussi les automobilistes, puis parfois la police.
Oui, aujourd'hui, je viens vous parler de ces règles de la circulation malheureusement méconnues des automobilistes qui pourtant détiennent un permis de conduire et sont supposés connaître toutes ces règles de la route, n'est-ce pas? Mm-hmm. Bon, je vous rassure, dans une prochaine chronique, j'aborderai aussi les règles qui s'adressent aux cyclistes parce que je sais qu'on en parle beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est une petite anecdote récente qui m'a rappelé que vraiment, il reste encore beaucoup d'éducation à faire sur le sujet. L'autre jour, donc, alors que je circulais à vélo sur une rue enneigée, je me suis fait frôler par un automobiliste qui est passé vraiment trop proche de mon guidon et qui m'a fait une belle frayeur. Comme souvent dans ces cas-là, à la lumière suivante, l'automobiliste a dû s'immobiliser et j'ai donc eu l'occasion de l'interpeller et de lui faire remarquer qu'il n'avait pas respecté la distance minimale de dépassement d'un cycliste.
Tu as fait part de ton mécontentement.
Voilà, absolument, mais j'ai quand même rappelé ça. Parce que oui, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis 2018, le Code de la sécurité routière, que j'appelle affectueusement le CSR, un petit peu plus bas ici, spécifie la distance minimale à respecter quand on dépasse un cycliste. Cette distance, donc, a été fixée à 1 mètre lorsqu'on circule sur des rues où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h ou moins, ou à 1,5 mètre sur les rues ou routes où la vitesse est supérieure à 50 km/h. Cette modification à l'article 341 du CSR avait justement été rendue nécessaire parce qu'il y avait trop d'automobilistes qui ne laissaient pas une distance suffisante quand ils dépassaient un cycliste, alors on est venu la préciser. Et en fait, ce qui est intéressant avec la façon dont l'article 341 est maintenant rédigé, c'est qu'il va même jusqu'à dire que par défaut, un conducteur devrait changer de voie de circulation, faire un vrai dépassement pour dépasser un cycliste et que le seul cas où il peut rester à l'intérieur de la même voie de circulation pour effectuer son dépassement, c'est s'il peut conserver cette distance de 1 ou 1,5 mètre pour dépasser le cycliste.
Fait que c'est un petit peu procédé comme quand on fait un corridor de sécurité pour les policiers qui arrêtent quelqu'un sur l'autoroute.
Exactement. C'est fascinant à quel point ça a été rapidement intégré par les conducteurs québécois. Mm-hmm. Mais on dirait que pour le cycliste,
c'est autre chose.
On se donne pas ce trouble-là. Mm-hmm. Donc, pour revenir à mon anecdote, l'automobiliste qui venait de me frôler a réagi à ma remarque en me reprochant de prendre trop de place sur la route. J'ai alors été tentée de lui rappeler que l'article 487 du CSR stipule certes que le cycliste doit circuler aussi près que possible de la bordure ou du côté droit de la chaussée, mais que ce même article précise également que ce qui est considéré comme possible tient compte de l'état de la chaussée et du risque d'emportiérage. En quelque sorte, donc, l'article vient autoriser les cyclistes à se tenir un petit peu plus au centre de la voie de circulation pour éviter les zones de la rue qui sont impraticables, par exemple en bordure, ou se prémunir des risques que peuvent poser les portières d'auto qui s'ouvrent à l'improviste.
C'est pour donner une chance aux cyclistes.
Voilà, se positionner de façon sécuritaire. N'en déplaise à ce conducteur, donc, l'enneigement de la chaussée ne me permettait pas de circuler plus à droite sur la rue et sa frustration de me voir occuper ce qu'il jugeait comme un espace trop important ne l'abstient pas, lui, de respecter la distance sécuritaire de dépassement précisée par l'article 341. Qu'on se le dise, hein, de toute façon, jamais la frustration n'est une bonne raison pour se permettre de faire abstraction de la sécurité routière ou de mettre en danger un autre usager de la route. Parce qu'en faisant sa manœuvre, ce conducteur a certainement contrevenu à l'article 3.1 du Code de la sécurité routière, qu'on appelle chez nous le principe de prudence et qui énonce, ouvrez les guillemets, que tout usager de la route est tenu, surtout à l'égard de celui qui est plus vulnérable que lui, d'agir avec prudence et respect lorsqu'il circule sur un chemin public. Cet article, lui aussi introduit dans la révision de 2018 du CSR, visait justement à sensibiliser les conducteurs en particulier aux risques qu'ils représentent pour les usagers les plus vulnérables. On peut penser aux piétons et aux cyclistes. Alors, ce n'est pas la première fois que je me fais frôler beaucoup trop proche en circulant à vélo et je crois que chaque cycliste a malheureusement déjà vécu une situation similaire. Lorsque j'ai l'occasion d'interpeller le conducteur ou la conductrice qui est en tort, j'hésite pas à leur rappeler un autre article du CSR qu'ils ignorent trop souvent, soit l'article 344. Cet article-là, il spécifie qu'un automobiliste a le droit de franchir une ligne continue, qu'elle soit simple ou même double, si c'est pour dépasser un cycliste. Alors vraiment, il n'y a pas de bonne excuse de frôler un cycliste parce qu'on ne veut pas sortir de sa voie de circulation. Le CSR nous autorise et nous encourage à changer de voie pour faire ces dépassements-là en toute sécurité. Et si on estime qu'on n'a pas la place pour dépasser, eh bien, on attend quelques secondes de plus, tout simplement jusqu'à ce que la situation nous permette de dépasser sans danger. Et de toute façon, en milieu urbain, on va se le dire, il y a de bonnes chances que le cycliste qu'on vient de dépasser en trombe, ben, on le retrouve à la lumière
suivante. C'est sûr qu'on va, prendre un petit arrêt, il va avoir une lumière, un stop, un passage piétonnier, on va devoir ralentir.
Exactement. Alors, pour revenir à mon anecdote, hein, l'interaction avec le conducteur s'est poursuivie avec une accusation un peu bizarre. Il m'a en effet demandé, à plusieurs reprises, avec la volonté manifeste de me faire taire, où était mon casque. Je vous avoue que j'essaie encore de comprendre en quoi la présence ou non d'un casque sur ma tête autorise le conducteur d'un véhicule de 2 tonnes à me mettre en danger, mais ça me donne l'occasion de rappeler quelque chose d'autre. Le casque de vélo n'est pas obligatoire au Québec, sauf pour les utilisateurs de vélos à assistance électrique, ce qui n'était pas mon cas lors du fâcheux incident.
Fait que c'est pas comme la bande de sécurité, là, justement,
la ceinture de sécurité.
La ceinture, voilà, c'est pas une obligation comme la ceinture pour les automobilistes.
Exactement, on fait souvent ce parallèle-là, ouais. Mais le casque n'est obligatoire que pour les gens qui circulent avec un vélo à assistance électrique. Alors tout ça, ça me fait penser aux policiers qui m'ont soutenu un jour que j'étais tenue d'emprunter la voie cyclable de la route sur laquelle je circulais. J'étais un peu dépitée parce que l'article 492 qui, par le passé, exigeait effectivement qu'un cycliste emprunte une voie cyclable s'il en existait une, cet article-là a été abrogé en 2010 et pour de très bonnes raisons. Une voie cyclable peut ne pas être praticable, elle peut être dangereuse, on peut tout simplement avoir affaire de l'autre bord de la rue et donc circuler de ce côté-là. C'est un article qui faisait plus vraiment de sens, tout comme l'article qui, par le passé, exigeait que tous les cyclistes tiennent leur guidon avec les deux mains, alors qu'on leur demandait aussi qu'ils signalent leurs intentions avec le code gestuel. Vous m'expliquerez comment je peux signaler mon virage à gauche si je suis tenue de conserver en tout temps mes deux mains sur mon guidon. Ou je peux vous parler de l'article qui exigeait que le cycliste reste en tout temps assis sur sa selle, ce qui peut être assez mal commode si on a une grosse côte à monter et qu'on ne peut pas se mettre en danseuse pour mettre plus de poids sur nos pédales. Alors, un autre comportement complètement légal qui peut aussi susciter les klaxons des conducteurs et les critiques de policiers, c'est le fait de se positionner au centre de la voie ou à gauche même de la voie quand on s'apprête à faire un virage à gauche. C'est pourtant une manœuvre tout à fait autorisée par le Code de la sécurité routière puisque l'article 487 dont je vous parlais plus tôt stipule que le cycliste n'a pas à demeurer à droite de la chaussée s'il s'apprête à effectuer un virage à gauche. Donc, quand on est en vélo, il y a plusieurs façons de faire un virage à gauche. La première, c'est de traverser un peu comme un piéton en deux temps, sans quitter la droite de la chaussée. Mais la technique du virage, comme une auto, elle est aussi parfaitement légale. Et quand on la choisit, pour des questions de sécurité, c'est même encouragé d'aller se mettre au centre de la voie ou à gauche pour éviter de se faire doubler au moment où on fait son virage.
Donc, un automobiliste qui voit un vélo devant lui dans sa voie pour tourner à gauche n'a pas à se plaindre. C'est complètement autorisé et légal.
Exactement.
Parfait.
Donc, au chapitre des dispositions assez mal connues du Code de la sécurité routière et même de la signalisation routière, c'est niaiseux, mais j'ai envie de vous parler des flèches.
OK.
Il existe à Montréal, sur un bon nombre de rues à sens unique, des bandes cyclables qui permettent de circuler à contresens de la circulation, ce qu'indique clairement une flèche dans la bande. Mais si on circule à vélo dans le même sens que les autos, on doit bien souvent partager la voie avec elles. Eh bien, c'est vraiment pas rare de se faire klaxonner par des automobilistes qui ne comprennent pas pourquoi on roule dans la voie « générale », entre guillemets, dans le même sens qu'eux, alors qu'ils ont l'air de penser qu'on devrait emprunter ces bandes. Alors, j'ai un petit indice pour eux, à l'exception du réseau express vélo sur les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques. À Montréal, lorsqu'une bande cyclable unidirectionnelle est à votre gauche, c'est qu'elle est réservée à la circulation à contresens. Donc, ne soyez pas frustrés de voir un cycliste circuler dans la même voie que vous et prenez, encore une fois, votre mal en patience. L'autre flèche qui est souvent incomprise, ou du moins ignorée, c'est celle de nos feux de circulation. De plus en plus, la programmation de nos feux comprend des phases qui interdisent les virages à droite des véhicules pour protéger la traversée des piétons et des cyclistes. Donc, le feu affiche une flèche verte qui autorise les véhicules à aller tout droit et uniquement tout droit. Pourtant, combien de fois je me suis fait couper la voie par un automobiliste qui tournait à droite sur cette fameuse flèche verte. Parfois même, il y a une grosse flèche rouge à droite qui est affichée, mais ça continue à tourner allègrement. Et je vous avoue que ça me décourage franchement de voir que, pour bon nombre de nos concitoyens, ça a vraiment l'air difficile de comprendre le sens d'une simple flèche. Alors peut-être que nos cours de conduite devraient commencer par un exercice de reconnaissance des formes. Ou en tout cas, ben, chose certaine, une petite révision périodique des règles de la route, ça ferait pas de mal à bien des titulaires de permis de conduire.
Puis ce que je retiens beaucoup aujourd'hui, c'est que il faut prendre le temps des fois juste de laisser la chance aux autres, puis pas les mettre en danger inutilement, parce que les mesures sont là pour tout le monde, puis c'est parfois nous autres qui est même un petit peu inconscient des règles qui sont permises aux autres.
Exactement. Dans le doute, de toute façon, la personne derrière le guidon, c'est un humain, puis on ne veut pas faire de mal à un autre humain.
Fait qu'on fait attention.
Voilà.
Voilà. Merci, Magali, puis je te dis à la semaine prochaine.